Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, bonjour à notre invité Adrien Arsens.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous êtes Adrien Arsens-Narbonnet, instructeur en survie, c'est votre activité. Alors déjà, c'est pas très banal comme profil, donc ça explique la raison pour laquelle on souhaite vous questionner. Et puis, vous rentrez d'une expédition en Antarctique, c'est-à-dire au pôle Sud, et ça, c'est pas banal non plus. Donc on aimerait vous questionner un petit peu sur toutes ces choses-là. Mais tout d'abord, l'instruction en survie... Comment est-ce qu'on vient à ça? C'est pas le genre de métier banal. Est-ce que pour vous, c'est un rêve d'enfant?
Ah oui, bonjour. Alors, tout à fait, c'est un rêve d'enfant. Donc, depuis tout petit, je me suis passionné pour ce milieu-là, de par des émissions à la télé, des émissions donc de nature, tout simplement. Et plus concrètement, c'est en ayant vécu en Italie quelques années où j'ai approché, on va dire, de manière plus professionnelle le milieu de la survie en participant notamment à des stages donc avec une association italienne de survie qui proposait des stages entre autres à l'étranger ou même en Italie dans des conditions plus ou moins compliquées. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à m'attacher à ça et à en faire... ma profession.
Oui, c'est ça. À un moment où vous vous êtes dit, bon, ben, c'est là-dedans que je veux faire ma carrière. Oui, donc ça remonte loin, finalement.
Oui, ça remonte à très loin. Un désir, comme je pense, comme beaucoup d'enfants, d'aventure, ce besoin un peu d'explorer.
Voilà. Mais quand on est gamin, c'est le rêve. À quel moment, chez vous, ça devient concret?
C'est devenu concret, je pense, quand je désirais en faire ma profession, comme je pense.
Voilà, et vous dites ce contact donc, en Italie, par exemple, avec la survie. Alors, on va y revenir, et notamment dans une troisième partie, Adrien Arsens, mais au démarrage, puisque j'ai prononcé le mot d'Antarctique, alors, l'Antarctique, grosso modo, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est le pôle sud, les territoires où les qu'il y a au pôle sud.
C'est donc le sixième continent qu'on appelle parfois. C'est donc un continent, contrairement à l'Arctique, qui n'est pas un continent, qui est une mer de glace.
Alors l'Arctique étant le nord, le pôle nord.
L'Arctique étant le nord. L'Antarctique est une terre immergée finalement. On imagine beaucoup un territoire plat, comme voilà la banquise, comme on disait, alors qu'en réalité, il est parsemé de reliefs, notamment des restes, on va dire, de la continuité de la cordillère des Andes, avec donc une partie de terre immergée, comme je disais, recouverte de glace finalement.
Oui, mais donc une partie montagneuse.
Tout à fait. Ça peut aller jusqu'à dans les 3000 mètres même.
Oui, qui est une sorte de prolongation de la cordillère des Andes.
Exactement.
Oui, alors il faut déjà le préciser.
Oui.
Bon, et alors, bon, on va y revenir parce que vous n'êtes pas parti comme ça sur un claquement de doigts, c'est sans doute un processus très 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 complexe. Mais au démarrage, donc, vous vous intéressez à la survie, à quel moment vous faites, alors, il y a un déclic qui vous dit, bon tiens, je vais aller explorer l'Antarctique, par exemple.
À quel moment j'ai décidé l'Antarctique? Alors, je pense que déjà, c'était bien avant ça, en amont, quand j'étais plus petit également. Je pense que la première et fois où, on va dire, j'ai été marqué, c'était à la télé. Non, au cinéma, pardon, plus précisément. En ayant vu le documentaire « La marche de l'Empereur ».
Des pingouins, là, enfin, c'était les manchots.
C'est donc en Antarctique. C'est un documentaire sur l'Antarctique, plus précisément, qui montre un peu le cycle de vie des manchots de type empereur. Et ça m'avait vraiment fasciné à l'époque, émerveillé ce continent un peu dont personne parle. Enfin, certaines choses un peu vraiment extraordinaires à proprement parler. Et donc ça m'avait, je pense. Inculquer ce projet-là.
Oui. Et cette envie permanente et jusque-là inassouvie d'aller mettre le pied au milieu des manchots.
Inconsciemment, oui.
Et on va y revenir en détail, mais vous en avez trouvé des manchots plutôt.
On en a trouvé. Alors, pas des manchots empereurs, parce qu'on les trouve un peu plus, on va dire, à l'intérieur des terres, mais on a vu plusieurs types de manchots, oui, en effet.
Et alors, on va entrer de plein pied dans cette expédition. On peut appeler ça une expédition.
Tout à fait, c'est une expédition polaire.
Voilà, mais c'est-à-dire un voyage d'un type particulier quand même.
Oui, c'est tout à fait, c'est un voyage particulier, donc qui mêle exploration maritime, donc navigation, quand même concrète, itinérance donc en voilier, débarquement, cabotage.
Oui, en effet, oui, c'est un périple beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer de prime abord. Alors, on va le reprendre de façon chronologique. Alors, vous partez en tant que navigateur, enfin, en tant que navigation, depuis la ville de Patagonie de Ushuaia, tout à fait au sud de l'Argentine. Bon, donc, sous-entendu, vous êtes arrivé là-bas en avion, j'imagine.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est le départ de l'expédition. Exactement. Après, le reste, c'était votre voyage pour vous rendre sur place.
C'est ça, c'est exactement ça. Je suis parti pour ma part de Paris. J'ai fait un vol Paris-Buenos Aires. Buenos Aires, Ushuaia.
Et alors, Ushuaia, les gens connaissent plus ou moins le nom par la télévision,
hein, oui.
Mais c'est une petite ville un peu particulière.
Tout à fait. Alors, Ushuaia, vous le prononcez très bien, c'est Ushuaia en réalité, hein, comme prononcent les locaux. C'est la ville, la plus grande ville qu'on dit, la plus australe au monde.
Oui. C'est-à-dire... Et austral, ça veut dire le pôle sud, en fait.
C'est hein. Ça, voilà, c'est là, au sud, on va dire. Il y a boréal et austral.
Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Bon, donc c'est pas simplement un endroit pour faire de la télévision.
Non, pas tout à fait. Après, c'est vrai que l'environnement, la beauté des paysages environnants s'y prête bien, hein, mais ouais, c'est le point principal, le départ pour les expéditions qui rejoignent l'Antarctique, notamment la péninsule en tout cas.
Alors, Adrien Arsens, décrivez-nous, quand vous arrivez à Ushuaia et vous trouvez le bateau sur lequel vous allez embarquer, décrivez-nous un petit peu ce que vous voyez, ce que vous rencontrez.
Alors, j'avais plusieurs sentiments, un peu d'appréhension, d'excitation, à ce niveau-là, hein, parce que je savais que ça signifiait un départ.
Oui, c'était l'inconnu, imminent. Quand même.
Ouais, l'inconnu. Alors, au niveau du lieu, comme on disait, c'est quand même assez majestueux, hein. C'est un lieu vraiment unique, avec le port d'Ushuaia, avec ses bateaux, tout ce qui peut, rappeler justement ces départs-là vers le pôle sud. Et donc, voilà, émerveillé.
Et là, vous sentez déjà que vous entrez dans un autre monde.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment le début de l'expédition. Pour moi, c'était à ce moment-là, concrètement. Et ça a amené, bien évidemment, pas un départ immédiat, mais les préparatifs en amont, notamment de l'expédition plus concret, les derniers ajustements.
Alors, c'est un voilier dirigé par un capitaine, par des navigateurs.
Oui.
Et vous êtes combien alors de personnes, et notamment de personnes qui sont venues pour voir, pas, je parle pas du capitaine et les...
Tout à fait. Alors au total, on était 11. Il y avait donc 4 membres à part entière d'équipage. Il y avait donc le capitaine, Patrick Jean Didier, originaire de Toulouse.
Oui.
Qui est guide de haute montagne.
C'est une expédition française, hein.
Oui, tout à fait. C'est un pavillon français, ouais. Qui est entre autres guide de haute montagne et aussi qui fait partie de la Société des explorateurs.
Ah oui, il fait de la montagne et de la mer.
Ouais, il en faisait. Très bon, il en fait. Il n'exerce plus de ce qui me semble, mais en tout cas, il est voilà.
Voilà. Bon, ça, c'est le personnel du navire. Mais les gens comme vous qui venez pour voir et découvrir, combien vous étiez?
On était environ 6-7, quoi.
Oui, hein, ah oui, très peu quand même.
Oui, c'est un cadre restreint.
Oui, et donc bien encadré.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et ça, on va y revenir parce que vous allez nous expliquer ce que ça signifie, tout ça. Donc, vous montez sur le bateau. Allez, vogue la galère.
C'est ça.
Alors, expliquez-nous ensuite. La mer est parfois rude par là.
Ah oui, parfois, c'est même un faible mot. C'est souvent. Donc, non, le passage de Drake est considéré comme un des passages... maritime les plus hostiles au monde, si c'est pas le plus hostile, avec connu pour sa forte houle, ses vents violents, ses changements soudains de météo, de nombreuses dépressions autour du Cap Horn, et donc c'est une certaine expérience maritime que beaucoup de marins rêvent de faire, mais en ont à la fois aussi un peu peur.
Oui, donc ça commence de façon assez rude, le voyage.
Oui, quand même, oui. Alors nous, il se trouve qu'on a eu des conditions plutôt acceptable, on va dire, par en connaissance de.
Alors, quand vous y allez, c'était récemment, c'était l'été là-bas.
C'était voilà, fin du printemps, début de l'été, tout à fait. Donc la période viable pour aller
c'était
être
quoi, en
Antarctique.
Décembre, en décembre.
C'était début décembre. On a eu un peu de retard. C'était censé, on était censé partir fin novembre.
Mais il faut bien comprendre que là-bas, c'est l'été, en décembre.
C'est l'été, tout à fait.
Oui. Alors donc, vous, cette traversée déjà, bon, ça passe quand même pas trop mal, vous dites.
La traversée se passe plutôt bien, en tout cas à l'aller, donc je suis pas particulièrement moins sensible au mal de mer, mais bon, il y a toujours quelques difficultés. N'importe quel marin, même expérimenté dans des conditions telles, peut aussi être un peu, chamboulé. Mais non, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, après un petit temps d'adaptation, on va dire. La traversée s'est déroulée sur 5 jours, il me
cinq
semble,
jours.
À l'aller.
Et alors, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous passez pas votre temps à regarder la mer? Peut-être qu'on vous briefe déjà sur ce qui va arriver?
Tout à fait. Bon, on a déjà fait plusieurs briefings, que ce soit au niveau de la sécurité et de ce à quoi s'attendre un peu, pour ce qu'on savait pas déjà avant de partir. Mais aussi, bien sûr, de quelques rappels sur place, de sécurité, de comportement, au niveau des déplacements, par exemple, du bateau, gilet de sauvetage, ligne de vie, mousqueton, tout ça. Il y avait aussi la planification de quarts de vigilance. Quoi,
le
si
quart, c'est surveillance, quoi.
C'est ça, de jour comme de nuit. C'est surtout important au niveau du passage de Drake. Mais aussi à l'arrivée, notamment par rapport à la glace qui peut intervenir sur les
Il y
passages.
A beaucoup d'icebergs par là. À quel moment vous
on peut en croiser.
Pas au départ d'Ushuaïa.
Pas au départ d'Ushuaïa, non. Ça, en vérité, non. Par contre, dès qu'on commence à être concrètement dans le Drake, ça peut arriver. Alors, ça dépend des périodes, bien évidemment, et de la latitude. Mais on va dire aller autour du 60e, commence vraiment à avoir de fortes chances d'en voir.
Oui, bon, le 60e, ça dit pas grand chose à l'auditeur moyen, mais enfin, ça veut dire que c'est très au sud. Et alors, le temps passe. Est-ce que, par exemple, vous voyez, alors, ce qu'on peut voir en mer, par exemple, des baleines?
Alors, en mer, oui, on a vu.
Dans ce fameux passage de Drake.
Dans le passage de Drake, on a vu beaucoup d'animaux, marins, des oiseaux aussi, des albatros. Au niveau strictement marin, on a vu des dauphins, des plusieurs espèces de cétacés, et ouais, des baleines et abos notamment.
Oui. Donc déjà, ça vous permet déjà d'être observateur et de dire je suis pas venu pour rien.
Tout à fait, non, ouais, on passe pas son temps à regarder la mer. On agit aussi, donc de par la vigilance, de par les rôles qu'on peut avoir à bord, hein, ça peut être aussi de la cuisine, participer à la vie
oui,
du jour, à la vie de bord.
Oui, vous participiez aussi, oui, c'est ça. Voilà. Vous étiez presque un marin comme un autre. Hein.
Oui, voilà. Avec le manque d'expérience, mais...
On marque, Adrien Arsens, une première pause. Alors, on va se retrouver dans une seconde partie où on va rentrer vraiment de plein pied dans ou sur ce que vous appelez le continent austral.